Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 6 octobre, Jean Castex doit évoquer le plan de relance aujourd'hui, notamment la partie consacrée au développement des transports en commun des collectivités locales. Le futur téléphérique de Lyon sera financé en partie par l'État. Le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Le diocèse de Lyon a recensé 76 auteurs d'abus sexuels. Nous écouterons dans cette édition le nouvel archevêque de Lyon, Olivier de Germay. 6000 manifestants hier dans les rues de Lyon, selon les organisateurs, 2300 selon la préfecture, pour réclamer plus de pouvoir d'achat. OM Lyon Business School construit son campus du futur à Gerland. Le musée d'art contemporain de Lyon souhaite donner plus de visibilité aux artistes femmes cette saison. Les explications avec le reportage de Gaël Bossier dans cette édition. Et puis la Ligue des Champions, les Lyonnaises se déplaçaient en Suède. Elles se sont imposées 3-0 à Aken hier soir.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le futur téléphérique de Lyon sera financé en partie par l'État ce mercredi. Jean Castex est à Lille et Roubaix pour y évoquer le plan de relance et notamment la partie consacrée au développement des transports en commun des collectivités. Une enveloppe de 900 millions d'euros au total, 162 projets sur 187 proposés pour lesquels l'État participera à hauteur de 10% environ. Le plan de relance aidera au financement de 25 nouvelles lignes de tramway, de 75 lignes de bus à haut niveau de service. Pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, 24 projets ont été sélectionnés pour un total de 135 millions d'euros. La métropole de Lyon et le Citral avaient transmis 8 dossiers. 7 auraient été acceptés pour un montant total de plus de 80 millions d'euros. Le transport par câble entre Francheville et Lyon figurerait dans la liste des projets soutenus. La concertation débutera mi-novembre concernant ce projet qui n'a pas l'approbation des maires de certaines communes survolées ou desservies. Francheville et Lyon y sont en revanche favorables. Le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église estime à 216 000 le nombre de personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles commises par des clercs ou des religieux depuis 1950 dans l'Église catholique. Le nombre de victimes grimpe à 330 000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans les institutions de l'Église. Le diocèse de Lyon a recensé pour sa part 76 auteurs d'abus sexuels, dont 49 sur mineurs. C'est ce qui ressort du rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. 76 prêtres et religieux auteurs d'abus sexuels ont été recensés par le diocèse dans le Rhône, selon le rapport Sauvé. Bernard Prénat était loin d'être le seul. Le nombre de victimes dans le département n'est toutefois pas connu. Le nouvel archevêque de Lyon, Olivier de Germay, a pris la parole hier pour demander pardon aux victimes des prêtres pédophiles.
Ce rapport me bouleverse, m'écœure et me scandalise. Les personnes victimes que j'ai rencontrées m'ont aidé à prendre conscience du traumatisme que représentent ces actes odieux. J'ai honte de ce qui s'est passé, de ces actes inqualifiables, mais aussi de la façon dont ces affaires ont été traitées. Ces chiffres effroyables montrent que dans le passé, l'Église a été défaillante en voulant gérer en interne ces questions. Elle n'a pas su ou n'a pas voulu voir ce qui se passait et a mis bien du temps à réaliser l'ampleur du phénomène. Je voudrais redire aux personnes victimes notre honte et notre compassion. Au nom de l'Église, je leur demande pardon.
Depuis l'affaire Prénat, l'accent a été mis sur la formation des prêtres et de l'ensemble des acteurs pastoraux. Les bureaux ont été équipés de portes vitrées. Pendant la confesse, le prêtre doit être visible d'une autre personne. Les diocèses communiquent aussi davantage entre eux, contrôlent le passé des religieux et signalent par écrit les gestes dits maladroits. Suite à la présentation du rapport Sauvé, l'évêque de Saint-Étienne, Mgr Bataille, a révélé le nombre de personnes venues témoigner de leur souffrance à la cellule diocésaine d'écoute. 39 victimes d'actes de pédophilie ont été recensées dans la Loire. 11 auteurs ont été identifiés, dont 6 ont été condamnés. 6000 manifestants selon les organisateurs, 2300 selon la préfecture pour réclamer hier dans les rues de Lyon plus de pouvoir d'achat. Les syndicats dénoncent la mise en place de la réforme de l'assurance chômage. Dans le collimateur également la crainte d'une relance de la réforme des retraites. Les syndicats demandent aussi une hausse du SMIC, des salaires et du point d'indice pour les fonctionnaires.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
EM Lyon construit son campus du futur à Gerland. Les travaux ont débuté cet été, après que l'école ait fait l'acquisition du terrain auprès de la métropole. Le nouvel ensemble sort de terre sur l'ancien tènement des câbles de Lyon. Il sera livré fin 2023 et opérationnel début 2024 avec l'arrivée des étudiants. Cette relocalisation à Lyon, après 50 ans passés à Écully, entre dans le cadre du plan Confluence 2025 qui a pour objectif de faire d'EM Lyon une des meilleures écoles de management en Europe. Le futur campus englobe un parc de 9000 m², mais aucun parking n'est prévu. L'école de commerce compte actuellement 8600 étudiants et 170 enseignants. Notez que EM Lyon entend renforcer sa dimension internationale et attirer davantage d'étudiants du monde entier. L'investissement sur le projet lyonnais est supérieur à 100 millions d'euros. Le Musée d'art contemporain de Lyon souhaite donner plus de visibilité aux artistes femmes cette saison, à travers des rencontres, des projections ou des performances. Les explications de Gaëlle Bossier.
Le Musée d'art contemporain de Lyon propose en cette rentrée 5 nouvelles expositions mettant les femmes en valeur. J'ai rencontré Isabelle Bertolotti, directrice, pour évoquer cette programmation, mais également une nouvelle salle conviviale pour accueillir des groupes. On se rencontre aujourd'hui, Isabelle Bertolotti, dans le cadre de la nouvelle exposition du MAC que vous avez dédiée aux femmes. C'était votre démarche, votre envie, c'est dans l'air du temps bien sûr, mais pas seulement.
Oui, non, c'était en fait un constat. Beaucoup de femmes font des études pour être artistes et très peu à la sortie. 65% ont le diplôme et puis elles disparaissent. Où sont-elles? C'est la question. Et ça veut dire aussi que les programmeurs ne les programment pas beaucoup, que les collectionneurs ou acheteurs de collections dans les musées les achètent peu, c'est ce qui est souvent lié, hein. C'est-à-dire, si on les voit pas, on les achète pas. Enfin, il y a une espèce de cercle vicieux qui fait que la femme disparaît et que peut-être aussi que le modèle de l'artiste femme n'est pas assez présent pour que les artistes femmes continuent, parce que c'est dur, c'est un métier dur, hein, pour les hommes comme pour les femmes. Mais je me dis, faut pas rester à attendre qu'il se passe quelque chose, faut agir. Donc l'idée était 5 expositions consacrées aux femmes, et ce sera pas les dernières, hein, c'est pas juste pour faire un one shot. L'idée, c'est bien de poursuivre une programmation qui alterne ou montre assez régulièrement, en tout cas, donne la chance à tout le monde, montre des femmes. C'est à nous, je pense, femmes aussi, d'agir et de faire en sorte que ces modèles-là soient présents pour que peut-être les plus jeunes se lancent ou restent ou résistent, parce que c'est aussi ça qu'il faut faire pour qu'on puisse ensuite avoir une pluralité de propositions. Alors on n'est pas dans cette dualité non plus ou homme ou femme, hein, on est tout genre confondu, mais avant d'en arriver à ce qu'on ne parle plus de sexe, on va dire, de genre, il faut donner un coup de pouce aux femmes. Donc cette volonté d'avoir une saison consacrée entièrement aux artistes femmes.
Le croisement des disciplines est très fertile dans ce que vous nous proposez, dans ce premier volet finalement, de ces expositions dédiées aux femmes.
Oui, ce qu'on voulait montrer, il n'y a pas une monoculture, on va dire, mais bien des pluralités d'expressions. Ce qui m'intéressait, c'était effectivement des générations différentes, des provenances différentes, du très local, on va dire, avec même une artiste qui habite dans la campagne, une autre qui est née à Lyon mais qui vit entre New York, Paris, Lyon, et puis des artistes qui sont nés en Slovénie mais qui habitent à Londres, etc. Donc une pluralité géographique, mais aussi une pluralité générationnelle, parce qu'une très jeune artiste qui sort d'une école d'art, comme une artiste très confirmée comme Marina Abramović, qui est là pour le coup, est plutôt une artiste reconnue et de renommée internationale, avec en passant par des artistes qui ont on va dire, que j'appelle milieu de carrière, qui font que ça nous amène à des discussions extrêmement différentes, mais qui aussi utilisent toutes des médiums différents, avec des approches dans leur recherche qui n'ont rien à voir du tout. Donc on voit qu'il n'y a pas le fameux female gaze, etc., c'est-à-dire une version qui serait uniquement féminine de l'art, mais bien des pluralités d'expression à travers le dessin, à travers la performance, la peinture, la sculpture, la musique. Avec certaines, utilisent des vidéos en provenance plus classique, photographie et cinéma, et puis d'autres font plus films d'animation avec des dessins et des peintures. Et puis certains, ce sont la vidéo qui retrace leur pratique performative. Voilà, on est dans des choses très diverses. diverses qui permettent à un public de voir comment, à travers ces différentes vies, elles ont réussi à exprimer leur créativité dans des formes très très différentes.
Parlons un petit peu de cet espace dans lequel nous nous trouvons également. Vous avez imaginé une pièce du musée qui donne d'ailleurs magnifiquement sur le parc pour pouvoir recevoir des groupes.
On avait envie de casser un peu cette image du musée où on rentre, on fait pas de bruit et on ressort et voilà. Et non, l'envie qu'on a maintenant, c'est d'être plutôt dans une forte convivialité. On a dédié certains lieux à des moments de pause, de rencontre que vous n'avez encore pas vu mais qu'on est en train de monter, qui sont des petits coins salons qui vont ponctuer les expositions, des moments où on peut s'asseoir, consulter les programmes ou les explications qu'on donne avec les expositions, mais aussi peut-être envoyer quelques photos sur Instagram, etc. Et puis on avait envie d'avoir un coin un peu cosy, très modulable, qui peut servir aussi bien au workshop pour des ados qu'une rencontre avec des journalistes avec qui on a envie de discuter, mais aussi des entreprises qui peuvent venir privatiser. Et on a choisi de montrer effectivement, d'avoir une vue sur le parc qui est magnifique. Ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Je ne vous cache pas que j'aurais rêvé d'avoir un rooftop et de pouvoir faire ça aussi, mais pour l'instant, il n'existe pas encore. Je ne perds pas espoir parce que je pense qu'on aurait une des meilleures vues sur le parc, comme à Central Park, hein, on peut le dire. Et voilà, donc il y a encore plein de choses à faire qui sont peut-être dans le futur. On peut imaginer ça aussi.
Merci beaucoup. On aime votre enthousiasme, en tout cas, Isabelle.
Merci à vous.
Des expositions monographiques du MAC de Delphine Ballet, Yasmina Sibik et Christine Rebet sont visibles jusqu'au 2 janvier prochain. Idem pour le troisième étage dédié au travail de Marina Abramovic et Ulay. Et également dans l'entrée du musée au rez-de-chaussée, vous retrouverez le croisement entre Hélène Ulac et Mel Ramos. Pour en savoir davantage, une seule adresse, mac-lyon.
Merci Gaëlle. Le nouveau doyen des Français habite dans le Rhône, à Saint-Romain-en-Galles, près de Vienne. Marcel Maïs, c'est son nom, 112 ans. Il est devenu l'homme le plus âgé de l'Hexagone depuis la mort hier de Jules Théobald, de 3 mois son aîné. Marcel Maïs est un ancien taxi ambulancier et garagiste. Un stylo Bic 4 couleurs vendu 24 500 €. Non, vous n'avez pas rêvé. Il faut dire que le stylo en question, s'il reste identique au modèle courant dans sa partie haute, se transforme en véritable bijou pour la partie tenue entre le pouce, l'index et le majeur. Le bijoutier joaillier de la Loire, Mathieu Tournaire, et l'artiste contemporain, Richard Orlinski, ont associé leurs talents pour proposer un modèle or et diamant, 500 heures de travail. Ce modèle n'existera qu'en 8 exemplaires, numérotés et gravés. 3 autres modèles sortiront des ateliers et Tournaire pour des bourses plus modestes, en bronze plaqué or jaune, or rose ou or palladium. Chaque modèle est fabriqué à 999 exemplaires et sera vendu dans les boutiques du joaillier à Savigneux, à Lyon ou à Paris au prix de 390 € tout de même, avec toujours la tête 4 couleurs en plastique signée Bic, un objet 100% made in France, aussi inattendu qu'insolite. Une belle idée de cadeau peut-être pour Noël.
Lyon, only Lyon. On y Lyon demain.
La Ligue des Champions, les Lyonnaises se déplaçaient en Suède à l'occasion de leur premier match de poule de la nouvelle formule de la Ligue des Champions féminine. Les filles de Jean-Michel Aulas ont très logiquement remporté le match 3-0 à Aachen. Après 21 mois d'absence, Ada Egerberg a joué le dernier quart d'heure. En basket, en élite, l'ASVEL s'impose au Portel, 69-94. Les Villeurbanais ont remporté leur 3e victoire consécutive. L'ASVEL a ainsi parfaitement préparé son match de vendredi à Berlin. Et puis M sera en concert au Fil de Saint-Étienne le 21 avril prochain. Les billets sont en vente dès cette semaine. Les premiers se sont arrachés hier. D'autres seront disponibles dès aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.